France Culture, bienvenue à tous, il est midi et demi. L'heure pour vous de retrouver Thomas Cluzel pour le journal. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. La République En Marche souffrirait-elle d'un problème d'identité? Toujours est-il que l'hémorragie se poursuit au sein du mouvement présidentiel avec la démission hier de 3 nouveaux députés au sein du bureau exécutif.
C'est aujourd'hui le début des auditions au tribunal de Paris des parties civiles dans le volet hyper-cacheur du procès des attentats de janvier 2015.
Peut-être une nouvelle crise diplomatique en vue entre Paris et Alger. Hier, le ministère algérien de la communication a décidé de ne plus autoriser la chaîne de télévision privée française M6 à opérer sur son territoire au lendemain de la diffusion d'un documentaire sur le mouvement de protestation populaire anti-régime.
Toujours dans votre journal, Thomas Cluzel, nous irons aux États-Unis.
Oui, balayant les cris d'indignation des démocrates, le président Donald Trump a estimé hier que le Sénat à majorité républicaine avait largement le temps de confirmer la nomination d'une nouvelle magistrate à la Cour suprême, et ce, avant le scrutin présidentiel. Une nouvelle manifestation du réchauffement continu du climat, la banquise de l'Arctique a fondu cet été jusqu'à la deuxième superficie la plus petite jamais enregistrée. Et enfin, l'invité de la rédaction, dans une vingtaine de minutes, nous recevrons Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et toute nouvelle présidente du COPA, la principale organisation européenne d'agriculteurs. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Il y a quelques jours, avec le philosophe Michael Fossel, nous vous parlions de cette jeunesse stigmatisée, jeunesse sacrifiée pendant la crise épidémique. Aujourd'hui, on va vous parler de la vieillesse, de ces vieux, parce qu'elle n'hésite pas à employer le terme, qu'on a caché, infantilisé aussi pendant cette période. Elle en fait un éloge de cet âge de la vie. C'est Laure Adler qui est notre invitée à l'occasion de la parution de son voyage, sa voyageuse de la nuit, pardon, c'est chez Grasset.
Merci et à tout à l'heure. Après la démission un peu plus tôt de son numéro 2, Pierre Person, La République En Marche aura bien tenté hier soir d'endiguer la crise dans laquelle le parti présidentiel s'enfonce depuis déjà plusieurs semaines. En vain, puisqu'en présentant un nouvel organigramme, à l'issue d'un bureau exécutif houleux où les invectives tenaient davantage du règlement de compte, le mouvement a vu le départ de ses instances de 2 autres députés, Aurore Berger et Sacha Houlier. 2 départs, certes aussitôt remplacés par de nouvelles arrivées, reste qu'il s'agit bien là d'un énième épisode, donc d'une annus horribilis pour la REM, dont la stratégie d'alliance à géométrie variable aux élections municipales s'est révélée largement perdante. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour Thomas.
L'hémorragie se poursuit et toute la question est désormais de savoir si elle laissera ou non des traces. Seule certitude, le malaise est aujourd'hui profond, au point que hier soir, Pierre, les cadres du parti présidentiel se sont véritablement déchirés.
Et ce matin, on reconnaît chez les marcheurs que le parti présidentiel a présenté hier soir un spectacle désolant lors de son bureau exécutif. 3 heures d'échanges pour le moins vifs et acides qui ont alimenté les réseaux sociaux autour de la réorganisation du parti et de sa ligne politique. Les démissions du député de la Vienne, Sacha Houlier, et de la porte-parole Aurore Berger venant rajouter au grand déballage matinal du numéro 2 le député de Paris, Pierre Person, qui reprochait au parti présidentiel de ne plus produire d'idées neuves. Ses départs étant actés, Stanislas Guérini en a profité pour organiser la direction du mouvement autour d'un binôme avec l'ex-jupéiste Marie Guévenou et Jean-Marc Borello qui représente, lui, l'aile gauche de la Macronie. Comme il fait appel également à d'anciens ministres et secrétaires d'État dans son nouvel organigramme, Sibeth Ndiaye à la tête du Polydée et Mounir Majoubi promis au poste de porte-parole. Ce qui éclate au grand jour, c'est la première crise de croissance du parti présidentiel, créé en 2016 autour d'un homme, Emmanuel Macron, et de sa personnalité. Un parti qui devait dépasser des clivages gauche-droite, mais qui, après le raz-de-marée des législatives de 2017, a vu émerger des sensibilités de droite et de gauche. Plus d'une trentaine de députés ont quitté le groupe à l'Assemblée nationale, quand le parti accumule les revers électoraux européennes, municipales et législatives partielles le week-end dernier. Aujourd'hui, La République En Marche se déchire au grand jour, alors que se profilent des échéances électorales sénatoriales ce dimanche et régionales au mois de mars prochain.
Merci Pierre Neveu. Comment réduire l'impact sur l'environnement de la réautorisation provisoire des insecticides néonicotinoïdes jusqu'en 2023? Les professionnels de la betterave et du sucre doivent présenter aujourd'hui au ministère de l'Agriculture un plan de transition afin d'encadrer cette mesure dérogatoire exceptionnelle. Quant au projet de loi du gouvernement, extrêmement controversé, il sera examiné dès demain en commission des affaires économiques avant d'être débattu en première lecture à l'Assemblée le 5 octobre prochain. 4 heures de terreur et de cruauté au procès des attentats de janvier 2015, la cour d'assises spéciale de Paris se replonge depuis hier dans l'attaque antisémite de l'hyper-cacher marquée par la barbarie d'un homme, Hamedi Coulibaly, lequel assassinera de sang-froid 4 personnes ce vendredi 9 janvier 2015 dans la supérette juive de la Porte de Vincennes. Florence Turne, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct du tribunal de Paris. Alors, aujourd'hui, la cour doit entendre le témoignage des familles et des victimes. Et ce matin, Florence, les premiers à venir s'exprimer à la barre auront été le père et l'oncle de Johan Cohen, jeune employé de l'épicerie, le premier à avoir été abattu par Hamedi Coulibaly.
Cet enfant qui est perdu, c'est toute une famille détruite. Ce qu'ils ont fait, c'est à vomir. L'oncle de Johan Cohen, le jeune employé de l'hyper cacher, 20 ans tout juste, première victime, vous l'avez dit, d'Hamedi Coulibaly. La maman n'a pas eu la force de venir, précise son avocat. Elle vit désormais en Israël, comme de nombreuses autres familles absentes du procès. Elle ne veut rien voir, rien entendre. Elle est toujours dans le déni, dans la peine, poursuit Eric Cohen, le père du jeune homme, toujours pas informé des circonstances exactes du drame, poursuit-il. Je leur ai caché pendant 6 ans, à elle et à ma fille, qu'il avait agonisé pendant près d'une heure. Sa fille l'a découvert tout récemment dans un reportage. Nouveau choc pour elle, après tous ceux qui ont percuté leur vie depuis cette journée d'angoisse devant l'hyper-cacher, les fausses informations laissant entendre qu'il n'y avait pas de mort, la policière qui vient finalement les chercher vers 20h. Les gens que je vais appeler, vous me suivez. Lui aussi est parti, a quitté son travail, incapable, dit-il, de faire quoi que ce soit. Je ne suis plus moi. Et comme en écho, les pleurs de Valérie Braham, longue jeune femme brune venue parler de son mari. Philippe Braham a juste eu le temps de décliner son nom avant d'être abattu par le terroriste. Mon mari, c'était mon pilier, répète-t-elle en sanglots. La photo de leur couple souriant, un enfant chacun dans les bras s'affiche sur l'écran de la salle. Deux bébés et ma fille, poursuit-elle, épuisée de nuit désormais sans sommeil. Et j'ai peur de l'avenir, j'ai peur d'oublier, peur que mes enfants l'oublient. Ma petite dernière, qui ne s'en souvient même plus. Ils grandissent sans leur père à cause d'eux. Elle désigne d'un geste les accusés, silencieux dans leur box, tête baissée pour certains. « Je suis en colère, je ne pardonnerai jamais. Mon mari, conclut-elle, je lui parle tous les jours, je le vois à travers mon fils, mais je suis morte avec lui. »
Merci Florence Sturm en direct du tribunal de Paris ainsi qu'à Jérémy Thuil pour les moyens techniques. Parce que l'Algérie figure aujourd'hui à la 146e place sur 180 du classement mondial de la liberté de la presse, sans doute la décision hier du ministère de la communication n'a-t-elle rien d'invraisemblable. Il n'empêche, au lendemain de la diffusion d'un documentaire sur le mouvement de protestation populaire à l'œuvre depuis plusieurs mois contre le régime, les autorités ont décidé de ne plus autoriser la chaîne de télévision privée française M6 à opérer sur le territoire algérien sous quelque forme que ce soit. Le ministère dénonce un regard biaisé et promet même d'engager des poursuites contre les auteurs du reportage. Alors, déconcertante ou familière, toujours est-il que cette décision intervient dans un contexte particulier après une campagne internationale de solidarité en faveur du journaliste emprisonné Khaled Rahrani, sans compter que 4 mois plus tôt, la diffusion par la chaîne publique France 5, cette fois-ci d'un autre documentaire, avait déjà déclenché une crise entre Alger et Paris. Les précisions de Valérie Crova.
Des témoignages insipides, puisant dans des clichés réducteurs et qui portent un regard biaisé sur le Irak. Le ministère algérien de la communication a vivement condamné dès hier soir le reportage d'enquête exclusive qui se voulait au départ un documentaire sur la valorisation de l'essor économique et touristique de la ville d'Oran. C'est à ce titre que ses auteurs avaient reçu une autorisation de tournage. Mais le film, intitulé « Algérie, le pays de toutes les révoltes », relaie également les témoignages de 3 jeunes Algériens qui parlent de l'avenir de leur pays. Le ministère de la Communication estime avoir été trompé par M6 et entend porter plainte auprès du CSA. Ce n'est pas la première fois que les autorités s'insurgent contre la diffusion par une chaîne française d'un documentaire sur la jeunesse algérienne. En mai dernier, France 5 avait diffusé « Algérie, mon amour » qui traitait des relations entre des jeunes et le mouvement de contestation du Irak, ce qui avait déclenché une crise diplomatique entre Alger et Paris. Hier, le président Tebboune s'en est pris également à Reporters sans frontières, accusé de vouloir déstabiliser l'Algérie. RSF a pris fait et cause pour Khaled Rahrani, fondateur du site Kasbah Tribune et correspondant pour la chaîne TV5 Monde. Le journaliste a été condamné la semaine dernière à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale, selon le verdict rendu, alors qu'il avait couvert une manifestation d'étudiants en mars dernier.
Les Camerounais sont appelés à manifester partout aujourd'hui dans leur pays à l'appel du principal opposant, mais aussi d'une partie de la société civile. Tous réclament le départ de Paul Biya, assis sur son trône depuis 38 ans et dont la réélection en 2018 est aujourd'hui contestée. Une colère qui se déplace donc à présent dans la rue. Et c'est ainsi par exemple qu'en France, la diaspora camerounaise a décidé de se joindre elle aussi au mouvement. Elle a même commencé à se faire entendre dès ce week-end à Paris. C'est un reportage signé Nathanaël Charbonnier.
La colère des Camerounais souffle jusqu'en France et c'est un signe dont il faut se méfier. Car si les chants restent encore joyeux, ils racontent avant tout le désespoir d'une partie de la population.
Je suis ici pour dire aux femmes qui ont vieilli dans les mains de Paul Biya de se lever. Parce que quand tu te lèves le matin sans savoir ce que tu vas manger, tu es mort.
Même colère pour Henri, jeune Camerounais enroulé dans son drapeau vert, rouge et jaune. Il ne veut plus du président Paul Biya, qu'il estime être depuis trop longtemps au pouvoir.
Nous avons accepté qu'il soit là depuis 40 ans. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Aujourd'hui, nous sommes fatigués. Vous n'avez qu'à vous rendre au Cameroun pour voir qu'il a échoué sur toute la ligne.
Et comme un effet papillon, il ne faut pas perdre de vue que ce qui se passe au Cameroun concerne aussi notre pays. L'activiste Calibri Calibro, c'est son nom, du mouvement BAS, Brigade Anti-Sardinard, interpelle une nouvelle fois le président français sur son soutien au pouvoir en place.
On ne peut pas soutenir un président qui tue son peuple. Et M. Macron ne peut plus s'opposer avec les présidents dictateurs. Vous savez, la dictature est responsable de 90% de l'immigration en France. Comment peut-on combattre l'immigration et soutenir les personnes qui sont responsables de cette immigration ?
Reste que si la diaspora se mobilise à Paris, au Cameroun en revanche, la manifestation de ce mardi est tout simplement interdite.
Face à la menace d'une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus, le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, a relevé hier son niveau d'alerte, signe d'ailleurs de l'inquiétude croissante outre-Manche. Ce soir, le Premier ministre a prévu de s'adresser à la nation sur les moyens de lutter contre le virus. Un peu plus tôt, devant le Parlement, Boris Johnson devrait déjà confirmer la fermeture dès jeudi de tous les pubs, bars et restaurants à partir de 22h, une mesure qui ne concernera en réalité que l'Angleterre, puisque chaque province britannique, rappelons-le, prend ses propres décisions en matière de coronavirus. Et c'est ainsi, par exemple, que hier soir, après 6 mois de fermeture, les pubs irlandais, véritable cœur battant de l'île d'Emeraude, ont eux été autorisés à rouvrir leurs portes, sauf à Dublin. La capitale est même soumise depuis ce week-end à des mesures plus strictes, puisque les habitants sont désormais invités à ne plus quitter la ville et ses alentours. En Espagne, là-bas, face aux nouvelles restrictions de mobilité, résignation et incompréhension règnent désormais dans la capitale depuis hier. Et pour une durée de 2 semaines, près d'1 million d'habitants de Madrid et de ses environs sont de nouveau soumis à de sévères restrictions dans leurs déplacements, sauf que certains se demandent pourquoi ces mesures ne concernent pas toute la région. Et puis c'est encore dans ce contexte que syndicats et enseignants ont prévu de se mettre en grève aujourd'hui contre la pénurie de personnel et l'absence de protocoles sanitaires dans les écoles. Au lendemain d'une journée sombre pour les places d'Europe et des États-Unis, les bourses chinoises ont ouvert à leur tour dans le rouge ce matin. Les marchés financiers se montre fébrile face à la résurgence possible donc de la pandémie dans certains pays. À cela, on pourrait encore ajouter les révélations d'une vaste enquête accusant les grands noms de la finance d'avoir permis le blanchiment d'argent sale à grande échelle, sans oublier bien sûr l'incertitude politique à 6 semaines de l'élection présidentielle, en l'occurrence le bras de fer prévisible entre républicains et démocrates sur la nomination d'un nouveau juge à la Cour suprême pourrait compliquer un peu plus encore la recherche d'un compromis sur de nouvelles mesures de relance. Quoi qu'il en soit, hier Donald Trump a fait savoir qu'il désignerait probablement une nouvelle juge samedi, voire vendredi. Et puis surtout, si la succession de Ruth Bader Ginsburg au sein du temple du droit américain, véritable électrochoc dans cette campagne, est devenue rapidement l'un des sujets majeurs de la présidentielle, elle n'aura pas davantage tardé à réactiver tout le magma conspirationniste. Les précisions de Valérie Cantier.
On pouvait se rassurer ce week-end en voyant que Twitter et Facebook étaient submergés d'hommages à Ruth Bader Ginsburg et avaient évité les fausses informations et les théories du complot. Hommage, puis inquiétude sur la date de son remplacement à la Cour suprême. Bref, rien que de très normal. La petite fille de RBG s'était elle-même exprimée. Clara Spera, c'est son nom, affirmait avoir recueilli les dernières volontés de sa grand-mère. Cette dernière demandait à ne pas être remplacée avant l'élection présidentielle du 3 novembre prochain. Et puis hier, Donald Trump a dit ceci sur Fox News.
Je ne sais pas si elle l'a vraiment dit ou si c'est un démocrate qui a écrit le texte à sa petite fille. Je pencherai plutôt pour la deuxième hypothèse, car c'est arrivé de nulle part et ça semble trop beau pour les démocrates. Bref, peut-être qu'elle l'a dit, peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons gagné l'élection et nous sommes obligés de faire ce qui est juste et d'agir le plus vite possible. Nous devons agir vite, c'est très important.
Il n'en a pas fallu plus pour que les théories du complot surgissent sur les réseaux. Attaque contre la petite fille de RBG, Clara Spera, féministe assumée, avocate pro-avortement. Certains affirment même que la phrase citée n'est pas du tout dans le style de Ruth Bader Ginsburg, donc elle n'est pas d'elle. D'autres vont même jusqu'à tweeter qu'il est impossible que la juge ait dit cela avant de mourir à sa petite fille, car sa petite fille n'a que 8 ans. En réalité, Clara Spera est une avocate diplômée d'Harvard, âgée d'une trentaine d'années, et depuis hier, elle est la cible de nombreuses attaques sur les réseaux sociaux.
C'est une nouvelle manifestation du réchauffement continu de la planète. La banquise de l'Arctique, véritable sentinelle de la déréglementation climatique, a fondu cet été jusqu'à atteindre sa deuxième superficie la plus basse jamais enregistrée depuis le début des relevés satellitaires. Marc Potvin, bonjour.
Bonjour.
Alors il s'agit d'une fonte spectaculaire, bien au-delà donc de la normale, mais surtout qui s'inscrit, Marc, dans une tendance lourde à la disparition progressive donc de cette glace de mer dans l'hémisphère nord.
Oui, et cette tendance, elle est donc constatée grâce aux satellites qui scrutent la superficie de la banquise de l'Arctique. Les premiers relevés remontent à 1979. Depuis, elle a perdu entre 30 et 50% de sa surface, estime Martin Van Coppenolle. Ce chercheur au CNRS, spécialiste du sujet, observe une accélération du phénomène ces dernières années.
On voit une décroissance rapide depuis le début des années 2000 avec une succession d'années, avec des minima à peu près tous les 5 ans, en 2002, 2007, 2012, maintenant 2020, avec un chiffre de 3,740 millions de kilomètres carrés contre 5 au début des années 80.
C'est en 2012 que la banquise arctique a atteint sa superficie la plus basse jamais enregistrée. Cet été-là, les circonstances sont particulières. Les cyclones se sont prolongés dans la saison et ont disloqué la glace. Selon Martin Van Coppenolle, il est encore trop tôt pour dire si un phénomène autre que l'effet de serre lié à l'activité humaine a pu entrer en compte dans la fonte exceptionnelle de cette année. Mais ses conséquences, elles, sont déjà connues.
Il y a toute une série d'espèces qui sont de plus en plus en danger suite à la disparition ou la réduction plutôt de leur espace de vie. On pense à l'ours polaire, on s'attend à ce qu'il ait pas mal de problèmes cette année, mais aussi dans le futur. Il y a aussi le morse qui est pas mal dépendant de la banquise. Je trouve ça totalement honteux que notre espèce soit capable de détruire des choses pareilles.
Ces derniers relevés donnent en tout cas du grain à moudre aux dirigeants mondiaux. Un sommet virtuel sur le climat est prévu dans les deux prochaines semaines en marge de l'Assemblée générale des Nations unies.
Merci Marc Potvin. L'invité de la rédaction aujourd'hui, Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et toute nouvelle présidente du COPA, la principale organisation européenne d'agriculteurs. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question, Madame Lambert, je l'évoquais en début de ce journal, c'est aujourd'hui que débute l'examen en commission du projet de loi du gouvernement sur la réautorisation provisoire des néonicotinoïdes. C'est aujourd'hui également que la filière, en l'occurrence les professionnels de la betterave et du sucre, doivent présenter au ministère de l'Agriculture leur plan de transition. Visiblement, la transition agroécologique n'est pas pour demain. La faute en revient-elle à la puissance de feu des lobbies?
La transition agroécologique est en marche, pour reprendre un mot à la mode. Peut-être ne va-t-elle pas assez vite, mais les changements sont engagés. Nous avons réduit de 8% les émissions de gaz à effet de serre sur les 15 dernières années. Nous avons optimisé l'utilisation de l'irrigation. On produit les mêmes quantités avec 30% de moins d'eau. On fait 30% de plus de rendement en blé avec 20% de moins en azote. C'est vrai que sur le sujet des phytosanitaires, l'impasse que nous rencontrons aujourd'hui, elle est très complexe à gérer. Parce qu'il y a une attaque énorme de pucerons, liée aussi à un hiver trop doux qui ne les a pas tués. Et la nature s'impose. La nature ne rentre pas toujours dans les équations mathématiques. Donc oui, la transition agroécologique en marche. Mais quand on fait le constat qu'il y a une impasse, c'est juste du bon sens de faire comme 14 pays européens sur 19 producteurs de betteraves, c'est-à-dire réviser cette règle qui avait dit interdiction totale, absolue, parce que sinon on n'a pas de sucre, il viendra de Belgique et d'Allemagne, de betteraves traitées aux néonicotinoïdes. Et ça ne réglera pas le problème des consommateurs ou ni même de l'environnement. Donc, je pense qu'il faut aviser et décidées au rythme aussi d'un certain nombre de recherches qui pour l'instant n'ont pas produit leurs effets.
Alors Madame Lambert, cette impasse, est-ce que la filière betterave et sucre ne s'y est pas mise elle-même en n'explorant pas vraiment ces 10 dernières années, et alors qu'on savait que les néonicotinoïdes allaient être interdits, en n'explorant pas des pistes qui lui permettaient de sortir de cette dépendance? Est-ce que c'est pas le cas pour plusieurs autres filières d'ailleurs?
Alors la date d'interdiction, elle n'a pas 10 ans, elle date de 2016, donc ça ne fait que 4 ans. La recherche, c'est un temps long. Vous savez, l'INRA dit facilement que pour trouver des solutions recherche, par exemple pour lutter contre le mildiou et l'oïdium sur la vigne, les pieds de vigne résistants ont nécessité 17 ans et demi de recherche. Donc la recherche est un sujet de temps long, loin du temps politique ou du temps médiatique. Ensemble, l'institut technique financé par l'État n'a pas non plus trouvé les solutions. C'est-à-dire que dire « vous devez, il faut », etc., je pense qu'il y a une responsabilité collective. En tout cas, le plan d'engagement qui est présenté par la filière betterave aujourd'hui, qui vise d'une part à faire des recherches sur des grandes surfaces, grandeur nature, pour voir ce que ça donne en situation réelle de culture, les engagements qui sont pris sur la nature des cultures qui seront consécutives aux betteraves utilisant les néonies sur l'enrobage de semences, le plan de protection pour les abeilles sont également des engagements concrets des producteurs de betteraves aujourd'hui. Mais l'État est aux côtés des producteurs dans la recherche. C'est pas que la faute de la filière. L'INRA n'a pas trouvé non plus.
Alors vous appuyez beaucoup sur la recherche, vous attendez beaucoup de la recherche, et vous parlez assez peu d'autres pratiques agriculturales avec peut-être moins de production, mais peut-être plus de sécurité dans le temps.
Ben, nous écoutons beaucoup ce que dit l'INRA, qui est quand même une référence, et l'Institut technique de la betterave. Après, ça veut dire quoi, moins de production? Je ne comprends pas votre question.
Moins de rendement.
Mais ça n'a rien à voir avec le rendement. Les betteraves qui sont aujourd'hui sélectionnées, qu'elles soient en agriculture biologique ou en agriculture conventionnelle, elles sont exposées de la même façon aux pucerons. Le puceron, il choisit pas, c'est bio, j'y vais pas, c'est pas bio, j'y vais. Il attaque les betteraves là où elles se trouvent, et les champs cohabitent dans la nature. Dans les motifs de recherche, c'est une attaque externe, le puceron, ça n'a rien à voir avec le potentiel de la semence de betterave. Je sais que c'est une critique polémique que certains aiment développer, mais ça n'est pas vraiment le sujet. L'INRA elle-même le dit. L'INRA dit aujourd'hui, il faudrait peut-être développer des plus petites parcelles. Rien n'est prouvé. Dans mon département, j'ai des parcelles d'un hectare et demi de betteraves qui sont aussi jaunes que les autres. Donc, moi, je m'attache pas aux polémiques. Je regarde qu'est-ce que dit la science, qu'est-ce que disent les scientifiques. Ils nous disent c'est difficile de trouver en 2 ans, 3 ans. La recherche, ça coûte cher. L'État a mis 5 millions d'euros sur la table. La filière propose de faire des recherches grandeur nature sur des grandes parcelles ou dans des vrais champs, pas seulement dans des labos, pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est une résolution importante qui est proposée au ministère aujourd'hui.
Alors sur un autre sujet, vous venez d'être élue donc présidente du COPA qui rassemble des organisations agricoles de toute l'Europe. Vous êtes désormais à la tête d'un puissant lobby agricole à Bruxelles. Alors est-ce que c'est une position stratégique pour pousser notamment les intérêts de la France qui est la première bénéficiaire de la PAC, alors que justement, cette PAC post-2020, on la négocie en ce moment.
Bon, d'abord, en France, le mot lobby a une connotation négative, ce que je conteste. Parce qu'il y a aussi des lobbies.
C'était pas le cas.
Je le précise. Pas dans votre bouche à vous, je l'ai entendu. Mais être un lobby, c'est représenter les intérêts. Oui, je représente les intérêts des agriculteurs français, des agriculteurs européens aujourd'hui. C'est 13 millions d'agriculteurs, c'est 20 millions de personnes quand on compte leurs familles. Et la PAC est une politique agricole commune qui date maintenant des années 60 et qui a toujours évolué, qui a intégré depuis une trentaine d'années les problématiques environnementales. Elles n'existaient pas dans les années 60 au moment de la création. Elles sont présentes dans les dispositifs de la PAC depuis les années 80-90, renforcées par la conditionnalité des aides en 2005, c'est-à-dire 21 directives et règlements à respecter pour percevoir les soutiens, renforcée il y a 6 ans par le verdissement des aides de la PAC, renforcée encore cette année par ce qu'on appelle les éco-programmes, le pacte vert voulu par Madame Ursula von der Leyen. Donc la PAC, elle est vivante, elle bouge, et elle intègre pleinement les problématiques, y compris de changement climatique, qui est un sujet extrêmement important. Alors, la France, première bénéficiaire, oui, parce que plus grand pays européen et producteur. Il y a d'autres pays qui arrivent aujourd'hui, comme la Pologne, l'Allemagne qui est très bien placée aussi.
Avec des modèles agricoles parfois très différents de ceux de la France justement.
Tout à fait, avec aussi des tailles d'exploitation très différents. Mon collègue qui vient d'être élu vice-président de Croatie a 5,5 hectares. Celui qui était pour la République tchèque a 800 hectares. Donc on a des tailles très très différentes. C'est l'Europe est un peu à l'image de la France, une agriculture extrêmement diversifiée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, d'où la nécessité de trouver d'une part une orientation générale, une agriculture productive et durable. Et puis des ajustements selon qu'on est en montagne, en plaine, selon qu'on est producteur de végétaux ou d'animaux, exposé au risque ou pas, une production qui peut être contractualisée ou qui ne l'est pas. Cette très très grande diversité fait que l'approche de la PAC peut pas être monolithique. Il faut énormément de nuances dans les commentaires que l'on peut faire sur la prochaine PAC que nous voulons.
Et on terminera par ces mots. Merci Christiane Lambert, présidente de la FNSEA et du COPPA, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Chouin ainsi qu'à Arthur Dumont pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi instable sur la moitié sud du pays avec des averses et des orages parfois intenses partout ailleurs. Le temps sera plus calme et même bien ensoleillé au nord de la Seine. Quant aux températures, afficheront entre 20 et 28 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.